France Info.
Claude Angély avec nous, rédacteur historique du Canard Enchaîné, qui publie Les plaisirs du journalisme. C'est un récit des interviews avec Pierre-Edouard Deldic. On les avait entendues cet été sur France Culture. Elles sont maintenant en librairie chez Fayard. Alors, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais vous, vous récusez le terme de quatrième pouvoir appliqué à la presse. Pour quelle raison ?
Ouais, je crois que c'est une idée complètement folle, parce que si nous avions un tel pouvoir, eh bien, il est évident que les articles seraient suivis ou de commissions d'enquête parlementaire ou de procès, alors que ce n'est pas le cas.
Bah, allez dire ça à Nixon. Il n'a pas été élu à cause de... Il a dû quitter oui. la présidence à cause d'un article.
Oui, Marcellin a dû démissionner après l'affaire des micros.
Oui.
Mais ça veut dire, ça ne signifie pas que le quatrième pouvoir que représenterait la presse, selon certains, serait vraiment à l'égalité du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et tout. On ne change pas le monde, on ne change pas le pays, on ne change pas la société, malheureusement, je dirais, parce qu'il y a des moments où on a envie que les commissions d'enquête parlementaires interrogent le président ou le chef du gouvernement sur telle ou telle connerie qu'ils font, et malheureusement, ça n'est pas le cas.
Là, vous citez des exemples, mais c'est terrifiant. Ou même, je l'ai appris avec vous, par exemple, après l'affaire des diamants de Giscard offerts par Bokassa, L'Humanité donne l'ordre d'arrêter d'en parler, dans le journal communiste.
Au bout de 3 jours, oui. Mais ça a été le cas aussi de la presse soviétique à l'époque, et de la presse des pays de l'Est.
Ah oui, dans quel but ?
Ben oui, il paraît, enfin c'est ce que on disait aux journalistes de l'Humanité, il ne faut pas en parler parce que ça avantage Mitterrand.
Dans ce livre, vous racontez des histoires assez incroyables, par exemple que Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président, sortait parfois tout seul en voiture de l'Élysée, sans garde du corps, le week-end. C'était pas lui le président normal ?
Non, mais il voulait avoir une vie privée indépendante. Et ça énervait beaucoup Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, et les policiers qui étaient chargés de le protéger. Et ça énervait aussi le Premier ministre à l'époque, qui a été pendant un moment Jacques Chirac, et qui était fou de rage quand à 5h ou 6h de l'après-midi ou pendant le week-end, il n'arrivait pas à joindre le président de la République.
Mais ça paraît
y compris pour virer un ministre qui s'appelait Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Alors j'ai découvert des choses sur la messagerie Telegram. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie cryptée, utilisée notamment, mais pas seulement, mais par les gens de l'État islamique, par les terroristes, par les dealers. Or, je découvre dans votre livre qu'elle est également utilisée par beaucoup d'hommes politiques, de droite comme de gauche. De quoi, de qui ont-ils peur ?
Ils ont peur, même quand les gens sont au pouvoir, ils ont peur des écoutes téléphoniques.
Et alors, vous citez, parmi les utilisateurs de Telegram, Arnaud Montebourg, c'est page 187, François Fillon.
Oui, naturellement.
Pourquoi naturellement ? Comment vous le savez ?
Mais non, mais parce que, disons, on a fait une enquête, et parce que ça circule quand même, les noms. Et puis parce que c'est l'habitude du temps de Pasqua, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des gens de Pasqua, et qu'ils ne voulaient pas me parler au téléphone, alors que leur ministre, leur cher ministre Charles Pasqua, était au ministère de l'Intérieur. J'ai dit, mais enfin, quand même. Il me dit, oui, vous savez, les écoutes, ça peut toujours.
Non mais attendez, ça c'est normal. Si le type dégoise sur son patron, qu'il n'ait pas envie de vous prendre au téléphone.
Non, c'était pas du tout pour dire du mal de son patron.
Ah bon ?
Ah non, c'était pour le défendre et pour défendre la politique qui était menée à l'époque. Mais simplement, il n'avait aucune confiance dans les téléphones. Vous savez, c'est un fantasme. D'abord, si journaliste, vous n'êtes pas écouté, c'est que vous êtes un tocard. Hein.
Ah bon ? Oui. J'ai parlé de votre histoire et votre carrière. Vous entrez au Canard Enchaîné en 71.
Oui.
C'est sous votre impulsion que ce journal, qui était d'abord plutôt satirique, devient en plus un journal d'enquête, ou l'inverse. Le Canard vous a engagé pour faire des enquêtes.
Oui, c'est Jean-Raoul Clémentin qui était rédacteur en chef. Et Jean-Raoul Clémentin a voulu développer le Canard dans le sens de l'enquête politique, y compris un peu en politique étrangère. Et donc, il m'a embauché, mais il a embauché d'autres journalistes. Et c'est à partir de ce moment où le Canard, bénéficiant déjà de son hostilité au régime gaulliste, a vu, disons, la possibilité de se développer encore plus.
Claude Angély avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure.